Dans le but de fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis
de 19h05
la YouJob. Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils.
Un Congo qui se nourrit lui-même et qui exporte est au centre de notre discussion de ce soir dans YouJob. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans la passerelle entre l'employeur et l'employé, la discussion, la rencontre et le rendez-vous de tous les entrepreneurs, le professionnel, de tout. Bien sûr, qui aime des questions liées aux affaires. Ce soir, je reçois un entrepreneur vraiment aguerri. En quelques années, il réussit à se frayer son chemin dans l'entrepreneuriat, mais un peu plus et spécialement dans l'agroalimentaire. Bonsoir, Joey Lungala Palata.
Bonsoir.
Un plaisir de te recevoir dans YouJob. Je le disais au départ, un Congo qui se nourrit lui-même et qui exporte. C'est d'ailleurs l'une des missions que tu t'es fixée avec tes collaborateurs pour ton entreprise. Ton entreprise, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nourrissons le Congo. Hein, l'entreprise d'ailleurs dont tu es le DG évolue dans les secteurs de la production et la transformation de produits agricoles tels que les maïs, les soja, les riz et l'huile de palme. Alors tu travailles aux côtés de ton associé Jordan Lucien Boussa pour transformer les paysages agricoles et nutritionnels dans notre pays. C'est l'objectif que tu t'es fixé avec lui. Nourrissons le Congo est une entreprise agroalimentaire qui a notamment pour mission de nourrir durablement la population congolaise tout en dynamisant son secteur agricole national. En 3 ans, s'il faut calculer les années, les chiffres sont en bonne progression. Alors l'entreprise est spécialiste, comme je le disais, dans la production alimentaire des maïs et aussi les soja ou les riz, mais aussi le renforcement de ces circuits pour améliorer l'accès de familles aux Congolais à des denrées locales et qualité, qui est un majeur défi. On a souvent du mal à avoir des produits qu'il faut. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On a 45 minutes pour en parler ce soir, mais d'emblée, je vais savoir comment tu t'es retrouvé dans ça, pendant que beaucoup d'autres jeunes également sont dans autre chose, tu t'es retrouvé dans l'agroalimentaire, c'était quoi la motivation et comment ça a commencé, la genèse de la chose.
Ok, merci beaucoup, je suis honoré de enfin parler de Nourrissons le Congo, parce que je ne suis pas vraiment trop média, mais après on a dit on va utiliser ça pour susciter déjà la jeunesse et montre au pays notre souci que le Congo soit nourri. Nourrissons le Congo, une entreprise qu'on est vraiment très passionné sur ça. Ça vit jour en observant notre population, en observant notre pays. Je pense qu'en 2022, nous avons eu une situation de pénurie de maïs que un pays comme la nôtre, qui est riche en tout, on devait commencer à acheter le maïs ailleurs. Moi et mon associé, nous avons dit, nous ne pouvons pas rester comme ça. On va lancer une entreprise pour lutter contre cette insécurité alimentaire. D'où nous avons eu l'idée de créer l'entreprise Nourrissons le Congo.
L'entreprise Nourrissons le Congo voit le jour en 2022. Mais pour mettre en place une entreprise, il n'est pas juste question d'avoir une idée. Il y a bien sûr beaucoup de choses et surtout une entreprise qui va évoluer sur de sites d'exploitation à des centaines de kilomètres à Kinshasa parce qu'il faut déjà chercher des terrains pour des plantations. Il faut savoir comment on va faire pour transformer, produire et tout ça. Et comment ça a fonctionné? C'était en l'espace de quelques mois, de quelques jours. Est-ce qu'il y avait déjà des contacts avec ceux qui sont en province? Il y a eu des expériences par les passés qui n'ont pas abouti, ensuite qui ont motivé cette nouvelle expérience. Comment ça s'est passé?
Oui, sur la création, déjà, nous avons créé l'entreprise en 2022. Donc, c'était l'étape de préparation. Mais on s'est lancé officiellement en 2023, le 21 avril 2023. Donc, le temps de préparation 2022 nous a permis déjà sur le lien Moi, je viens d'une famille d'agriculteurs, que tout le monde déjà faisait ça. Mes grands-parents, mes arrières, tout ça. Et voilà. Après, nous avons eu à parler avec mon collaborateur. Nous avons eu le temps et on a décidé d'aller palper ça. Mener quelques expériences sur place. On a vu que c'était productif et on a dit « Ok, on s'est lancé sur ça ».
Alors, vous industrialisez l'agriculture, ce qui n'a pas été le cas peut-être avec le membre de votre famille qui vous ont précédé, parce qu'on l'a bien, ouais. Au bout de la famille, il y a agriculteur quand même, mais ce n'était pas notre ambition de nous, mais après, on parle d'un grand projet. On est en 2022, il faut aller chercher des terres, ensuite lancer de plantations. Il faut avant tout un budget. Et c'est là le grand problème. Comment ça s'est passé?
Bon, sur le budget, on a dit si nous voulons lancer, on avait le souci de lancer l'entreprise, on avait le souci de nourrir notre population. On a dit si on va attendre le financement extérieur, on ne va jamais avancer. On a commencé par l'autofinancement, nous deux, avec nos efforts personnels. On a mis en place et en fait, à prendre des terrains et engager des travailleurs et chercher de matériel pour se lancer. Et Dieu a été dans notre côté. On a réussi quand même à avoir quelques hectares au début. Et après, suite à le retour de nos investissements, on a ajouté aux hectares et à ces jours, nous comptons 50 hectares à notre actif.
50 hectares et vous produisez des tonnes de maïs. Vous desservez des grandes entreprises et sociétés dans ces pays. On va y arriver. Mais je suis encore, en tout cas, dans la jeunesse parce que là, on parle d'un projet qui est porté par deux personnes qui acceptent de marcher ensemble. Vous avez moi, c'est dans mon bal été. On parle des amis. Vous n'êtes même pas des frères. Vous êtes des amis. Qu'est-ce qui a facilité les choses? Qu'est-ce qui a facilité cette confiance de vous rassembler? Vous dites, OK, on lance une activité et on parle de deux personnes. Et même en réalité, il n'est pas toujours facile d'avoir une même vision, de continuer à avancer sur une même voie.
Oui, moi, je pense que ce qui nous a déjà permis à être ça, parce que nous deux, on a les soucis du pays.
Attendez. Les soucis du pays, c'est fort, ça.
Ouais. C'est-à-dire, on a eu le temps à... Moi, personnellement, j'ai étudié hors du pays et lui aussi. Et à chaque fois, on se disait que nous devons faire quelque chose pour le pays, que ce soit dans différents domaines.
C'est une relation qui a commencé depuis des années.
Oui, depuis des années. Et nous devons faire quelque chose pour le pays. Et quand il y a eu l'insécurité alimentaire sur la pénurie de maïs, on a dit oui, on va intervenir sur ça parce que de base, ce qui est important, on dit même l'adage ventre affamé n'a point d'oreille. Donc si nous ne sommes pas encore nourris, même si nous allons avec des discours, nous entreprenons d'autres choses, ça ne vaut pas la peine. C'est pour cela que nous avons dit on commence à nourrir le pays et on verra où ça va nous amener.
Qu'est-ce que ça fait de conduire et diriger une entreprise à deux?
Une entreprise comme l'agriculture, déjà, c'est délicat. C'est beaucoup de stress. C'est beaucoup de temps. Et moi, par exemple, quand on a lancé ça, j'ai resté ailleurs. Je venais seulement au moment important, c'est-à-dire... quand il faut s'aimer, quand il faut récolter tout ça. Mais au fur et à mesure, l'entreprise demandait beaucoup. Je me suis dit, non, je dois déménager, revenir au Congo, donc m'installer au Congo. Donc, ça demande beaucoup de consacrer vraiment le temps. Et l'agriculture, c'est une chose, surtout avec notre milieu congolais, il ne faut pas faire quelque chose à côté. Donc, soit vous êtes sur l'agriculture, soit vous faites autre chose. Si vous disiez, par exemple, vous mélangez des choses... c'est vraiment difficile.
L'activité agricole ne se fait pas et ne facilite pas la diversité d'activités dans d'autres secteurs. C'est une expérience personnelle ou,
Oui, c'est une expérience personnelle parce que moi, vraiment, j'ai... C'est qu'on dit, avec cette entreprise, nous avons tout connu. Du succès, quelques failles sur la production, par exemple, les erreurs de débitant. Et j'ai même une anecdote que je dis souvent. L'adage qu'on dit vraiment, voir votre projet tomber à l'eau. Nous, on a vécu ça. Notre première production, l'essai. On avait fait l'essai sur un hectare. Ça nous a donné quelque chose de 14 sacs. On dit bien, on amène le 14h à Kinshasa, on va commercialiser ça et voir déjà comment ça marche. Parce qu'on avait fait des théories, maintenant c'est lancé à la pratique. On a emprunté le voie fluviale pour amener le produit. Le produit est arrivé au port. On nous a appelé que non, il y a vos 14 sacs. Nous, on était heureux, notre première production. J'arrive, je vois le produit, je fais la photo. Je vais maintenant confirmer comment les choses se passent. Je rentre, on m'appelle, on me dit que non, votre produit qui était venu, ça s'est coulé dans l'eau. J'ai dit, comment moi j'ai vu ça s'agarrer? Oh non, ça s'est écoulé. Et je viens effectivement ça. J'ai même des images jusqu'aujourd'hui. J'ai dit, partout moi je parle de ça. Et après on s'est dit, on laisse ou on continue?
On était... vous avez perdu toute la quantité de produits que vous avez. Ouais. Et on vous dit au port que vous avez perdu vos sacs, alors qu'après un tour, vous les avez capturés. Mais pourquoi vous n'avez pas présenté vos images?
Bon, c'était effectivement, quand je suis rentré, j'ai bien vu que les produits s'écoulaient. Pourquoi? On avait pris le pirogue. Les pirogues sont arrivées un peu tard et la loi ne permet pas de décharger la nuit. Et du coup, il fallait attendre. Le temps d'attendre, la pirogue qui n'était pas en bon état, ça fait que ça... La marchandise s'est renversée. Dans
le... Ouh là là. Alors ça peut être découragé.
Oui.
Et c'est parce que c'est de l'investissement, c'est et beaucoup d'argent, du aussi. Temps, la première production. Comment tu as fait avec ton associé? Comment vous avez fait avec l'équipe pour surmonter cette épreuve?
C'est pour cela qu'on était vraiment déterminés à nourrir le pays et à réussir sur cette entreprise.
Ce n'est pas à faire quand même de l'argent, à se faire de l'argent.
De base, c'est d'abord cette passion-là, de travailler pour la population. C'est pour ça, parce que si c'était pour l'argent, on allait vraiment arrêter là. Et bon, ça, on a essayé, ça n'a pas marché, on a perdu de l'argent, on s'est lancé sur autre chose. Mais vu qu'on était déterminés, on n'a pas baissé les bras, on s'est remonté la morale. Et d'ailleurs, je salue vraiment mon associé, Gérandin Boussa, parce que de nous deux, c'est lui vraiment qui motive plus quand il y a des périodes un peu de difficultés dans l'entreprise où il y a des complications. Donc, ça nous a aidé vraiment. On est vraiment deux personnes qu'on est en train de se compléter à tout moment.
Cette complémentarité aide énormément l'entreprise, ce qui est intéressant. Malgré cette perte, l'entreprise a résisté à la tempête et continue à poursuivre ses activités aujourd'hui. Elle s'est d'ailleurs agrandie. On parle des 15 hectares au départ. Aujourd'hui, c'est plus de 50 hectares qui permet une production des tonnes, des sacs de maïs. Comment expliquer? C'est quoi votre stratégie en termes de plantation? Vous apportez quelque chose de nouveau? Vous travaillez avec des experts qui viennent d'autres pays? Comment ça se fait?
Nourrissons le Congo, c'est vraiment purement congolais. Déjà, nos valeurs dans notre programme, c'est produire les produits sans engrais chimiques, des produits purement bio. Nous n'utilisons pas les engrais. Nous respectons juste le principe de l'agriculture, c'est-à-dire, par exemple, dans le milieu où notre entreprise est implantée à Kwilu, il y a beaucoup d'agriculteurs, les gens vivent de ça, et les gens sèment à tout moment, des petits agriculteurs, même si ce n'est pas la saison et ils sèment, mais nous, ce que nous ne faisons pas ça, nous sèmons qu'au moment de la saison de maïs, par exemple, la saison du riz, et on sème. Donc, nous respectons un peu ça, les alignements sur l'agriculture, toutes les étapes sont respectées à la lettre. Malgré nous travaillons jusqu'à présent en artisanal, mais nous faisons vraiment une agriculture moderne. Moderne avec des principes bien déterminés et bien suivis.
Mais vous avez 50 hectares, hein, et... Encore rester dans l'agriculture artisanale, comment vous faites? C'est un challenge. Vous avez une équipe de combien de personnes? Comment ça se fait? Ça, c'est un gros défi.
Oui. Parmi le valeur de notre entreprise, c'est aussi la création des emplois. Ce qui est le cas à Kwilu. Nous avons embauché plus de 50 personnes, hommes, femmes.
Une personne par hectare, si on veut essayer de...
Non, en fait, les hectares, ça marche pas comme ça. On produit hectare par hectare. Donc, on ne produit pas les tout à un moment. Et après, ça dépend aussi de nos objectifs ou de notre... nos objectifs de la production, de notre calendrier agricole. On va dire sur les 50 hectares, par exemple, cette saison, on va faire que 30. On va faire 50 ou plus. Par exemple, les saisons A et saison B, c'est... on ne fait pas de même production parce que saison A, c'est un peu large. Vous avez le temps de tout faire. Et saison B, c'est trop réduit. Il y a beaucoup aussi de risques de faillite. Donc, nous tenons compte de ça pour déterminer si nous allons exploiter tous nos 50 hectares ou faire juste une partie. Concernant, en artisanal, des fois, nous louons les machines parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore nos machines. C'est dans le plan d'industrialiser ça. Et pourquoi pas, aujourd'hui, nous parlons des 50 et demain, faire des 4000 hectares.
Quelle est votre quantité de production aujourd'hui? Principalement, votre produit que vous mettez plus en avant, c'est le maïs. Quelle est votre quantité de production aujourd'hui?
Oui, actuellement, nous avons des contrats avec des entreprises que nous livrons 50 tonnes de maïs. Mais après, nous avons eu, vu que le produit déjà est très apprécié par le client, et nous avons signé des contrats de 1000 tonnes de maïs. De 1000 tonnes de maïs, raison pour laquelle nous voulons voir comment étendre ça afin d'être en capacité de satisfaire le besoin du client.
1000 tonnes sur combien d'années?
Par mois. Et c'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible. Par exemple, nous faisons des cultures où c'est sans engrais, mais nous prenons quelque chose de 3 tonnes ou 4 tonnes par hectare de maïs. Si nous utilisons nos 50 hectares, nous avons quelque chose de 275 tonnes de maïs. Et dans notre milieu, nous avons aussi la capacité d'avoir plus de 3000 hectares. Pourquoi? Nous avons une coopérative que nous avons créée aussi là-bas avec de petits agriculteurs. Parce que le but est que nous tous, nous travaillons sur l'agriculture. Gardons nos valeurs africaines, qui est de travailler avec la nature. Donc, faire 1000 tonnes, ce n'est pas impossible. Nous sommes dans le milieu depuis longtemps. C'est juste avoir le moyen pour y arriver.
Alors là, c'est Joey, l'entrepreneur, avec l'entreprise Nourrissons le Congo, qui, depuis 2022, est en train de faire son parcours. Hein. Mais avant ça, il y a eu également un parcours avant 2022. Qui était ce Joey de 2022? Est-ce qu'il était également dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qu'il faisait avant?
Oui, avant 2022, Joey était automaticien à l'usine de Mécaterne en Italie, qui ont travaillé après étudiant. Quand on a fini, on a essayé de travailler un peu gauche à droite. Après, on a décidé de rentrer au pays pour travailler sur l'agriculture.
Est-ce que l'expérience à l'étranger, cette expérience a eu un impact sur ton activité avec Nourrissons le Congo?
Oui, je dirais 100%. 100% parce que déjà, travailler à l'étranger avec les conditions, avec les réalités, ça nous a motivé que nous ne devons pas travailler pour les autres. Parce que vous travaillez, vous gagnez de l'argent, mais à la fin, vous vous retrouvez presque avec rien. Tout reste là-bas. Et on a dit pourquoi on vient juste pour enrichir d'autres pays. On rentre travailler à nos terres, enrichir notre pays.
Alors tu parlais de la coopérative nationale des entrepreneurs congolais, dont tu es d'ailleurs le coprésident. À quoi consiste cette coopérative? Comment ça fonctionne?
Toujours dans le souci d'automatiser la jeunesse congolaise, on a réussi beaucoup de bonnes choses sur l'entrepreneuriat. On a dit, on ne va pas garder ça pour nous-mêmes. On va créer une coopérative qui va associer les jeunes entrepreneurs ou les entrepreneurs congolais, partager des opportunités. Parce que peut-être le climat de notre pays ne valorise pas ou favorise pas, surtout les entrepreneurs qui sont dans leur début. Nous, on a quand même peu d'expérience. Nous, on a quand même quelques contacts. Quand je parle de contacts, je parle de partenaires, quelques connaissances sur l'entrepreneuriat. Pourquoi pas le partager et faire en bénéficier sur d'autres personnes? C'est pour cela que nous avons créé cette coopérative que nous avons sommes avec des entrepreneurs que nous accompagnons, par exemple, sur l'exposition à l'extérieur. Vendre le pays sur l'échelle mondiale, que les entrepreneurs qui produisent des produits congolais aient l'opportunité d'aller présenter ça à l'international. Nous accompagnons aussi sur l'aspect de financement, parce que voilà, nous savons, les idées, la tête, il y en a, mais après, sans moyens, c'est difficile. Donc, les entrepreneurs qui ont des bonnes idées, nous pouvons les accompagner à avoir quelque chose pour lancer leur entreprise, parce que le but est que, pourquoi pas, l'RDC devienne Chine d'Afrique.
Comment avez-vous bâti votre réseau ? Vous avez été à l'étranger, vous êtes revenu au pays, vous lancez à peine votre entreprise en 2022, vous parvenez à vendre, à distribuer vos produits à des grandes entreprises. Comment avez-vous construit votre réseau avec tout ce que vous parvenez à faire aujourd'hui ?
Voilà, c'est pour cela. Moi, je pense que c'est juste ces questions déjà d'une bonne préparation. On pouvait se lancer officiellement en 2022. On a dit non, on va vraiment prendre le temps, on va réunir toutes les conditions possibles, tous les moyens et puis se lancer. Donc, on a fait une très bonne préparation, on a eu des contacts, on a pris des rendez-vous avec des entreprises, on a signé des contrats et on s'est lancé en 2023. Donc, c'est question de se préparer, on s'est bien préparé. On s'est donné le moyen pour qu'aujourd'hui, nous allons plus aller toquer, mais les gens nous appellent pour être leurs fournisseurs.
Mais Joey, la préparation, oui. Mais tu le sais bien qu'aujourd'hui, même dans la production de maïs, que ce soit du soja, il y a plusieurs entrepreneurs, plusieurs autres personnes qui s'élancent dans les secteurs. Ils sont là peut-être depuis 10 ans. Mais ils ne s'en sortent pas. Il y en a même qui ont eu assez de temps aussi de préparation. On reçoit beaucoup d'entrepreneurs. Certains qui viennent poser des problèmes, des difficultés qu'ils rencontrent. D'autres, comme toi aujourd'hui, qui avancent ses côtés ou ils s'en sortent. Mais c'est quoi, en fait, ces âmes en l'espace de 3 ans, on quitte 15 hectares pour 50 hectares de plantation de champs de maïs, de soja ou des riz. Les riz d'ailleurs qui est difficilement cultivé avec les climats du pays. Et on parle notamment d'une chaîne de distribution qui ne fait que s'agrandir avec des grandes sociétés qui sont bien assises, qui vous demandent des contrats de distribution de près de 1000 tonnes de maïs. Mais comment on arrive à ça en l'espace de quelques jours? On risque de dire qu'il y a aussi une bique ici.
Oui. Si vous n'êtes pas à l'intérieur, vous direz ça. Mais moi, je pense que nous avons travaillé vraiment pour avoir ça. Nous avons travaillé. On a mis tous les moyens dans la possession de l'entreprise pour avoir ces genres de contrats. Par exemple, moi, je pense... Ce qui nous pose aussi problème, nous étant Congolais, on n'aime pas affronter des épreuves, on a peur de loin. Par exemple, moi, j'ai travaillé avec SK depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui, je pense 2 ans déjà. Et avant que nous puissions avoir un contrat avec lui, il avait d'autres clients qui étaient déjà bien assis. Et si j'avais la mentalité, voilà, déjà c'est une grande entreprise, moi je viens de me lancer, est-ce qu'ils vont m'accepter, est-ce que j'allais pas arriver. J'ai demandé rendez-vous avec leur chargé d'achat, on s'est parlé, j'ai pitché sur l'entreprise, sur le produit, et il nous a validé. Moi je pense d'ailleurs avec lui, avec d'autres contrats ça a pris du temps, mais lui après, à l'issue de notre, avec par exemple, est-ce qu'à l'issue de notre conversation, il nous a passé la première commande. Et aujourd'hui, nous avons des commandes de plus de 1000 bidons que nous livrons envers lui. Donc, c'est question de préparer et affronter cela. Ne pas avoir peur. Si vous avez l'idée, vous savez que non, cette personne peut être un potentiel client. Prépare vos produits très bien, va lui apporter, propose-lui vos services et Voilà, c'est ce que nous avons fait.
Alors, on conseille souvent à la plupart des entrepreneurs de se lancer sur une seule activité afin de concentrer tous les efforts et de savoir bien gérer les retours sur l'investissement. Mais on voit qu'avec Nourrissons le Congo, toi et ton associé, vous vous êtes lancé sur plusieurs activités directement. On parle de maïs, on parle du riz, on parle même, là, tout à l'heure, tu parlais des bidons, donc des bidons d'huile de palme. Comment ça se fait, au fait?
Oui, Nourrissons le Congo, c'est une entreprise de production des produits alimentaires de première nécessité. D'ailleurs, je pense l'année prochaine, nous allons faire entrer encore d'autres produits. Parce que, en fait, nous tous, c'est résumé sur notre vision. La vision, c'est nourrir la population. C'est pour cela qu'on avait dit, nous allons lancer les produits qui sont utilisés chaque jour. Par exemple, le maïs dans notre pays, tout le monde consomme. Le maïs est consommé chaque jour. L'huile de palme, le riz et les soja. Donc, voilà, on a dit, l'entreprise, c'est pour donner à la population des produits de première nécessité. On va pas commencer avec que de maïs, on va commencer avec 4 produits, on voit l'évolution et au fur et à mesure, nous allons ajouter d'autres produits.
Ça, c'est très bien. Alors, on espère bien que ça va continuer à grandir. Mais une question pour projeter les futurs. Comment tu vois l'entreprise dans 5 ans?
Dans 5 ans, je vois Nourrissons le Congo, premier distributeur des produits alimentaires Congo. Donc c'est vraiment ça notre
dans
objectif.
Dans 5 ans déjà.
Oui, c'est vraiment ça notre objectif. Moi vraiment je veux que à chaque fois on va commencer à parler du maïs, on fait référence à Nourrissons le Congo. À chaque fois on va commencer à parler du riz, on fait référence à Nourrissons le Congo. La semaine passée j'étais en Chine suite à un forum économique. Je vis du riz parfumé en Chine. Je suis allé avec mes produits. Je les ai montrés. Regardez, le Congo produit aussi du riz parfumé. Le Congo produit aussi des Nerica parce que nous utilisons la variété Nerica. Et ils étaient étonnés. Ils ne pensaient pas que ce genre de culture. C'est ça la vision que nous voulons. Montrer que voilà, le Congo, à part le minerai, nous avons aussi du riz parfumé, nous avons aussi du soja, nous avons aussi du riz. Donc, dans 5 ans, vraiment, Nourrissons le Congo. On reviendra ici. On vous dira, voilà, nous avons atteint notre objectif. On est maintenant en référence, comme on sait, par exemple, quand on parle du lait, on sait quelle entreprise viser. Quand on parle de l'eau, quelle entreprise viser. Donc, notre objectif qu'on s'est fixé, c'est aussi, quand on va parler du maïs, du riz, du soja, avoir un Nourrissons le Congo comme référence.
Qu'est-ce que tu penses quand même de la concurrence? Parce qu'on voit également les climats des affaires et ce que les autres proposent, ce qui sont déjà sur les marchés. Qu'est-ce que tu penses de la concurrence avant de parler de l'industrie agroalimentaire, tous ces secteurs?
Ouais, la concurrence, pour moi, je pense que c'est bien parce que ça nous pousse à s'amender. Déjà, c'est challenger. Ouais, moi, je n'ai pas peur de la concurrence. Moi, je vais parce qu'on ne veut pas être le seul à fournir le produit. Non. On veut devenir Chine d'Afrique. Si on veut devenir Chine d'Afrique, c'est-à-dire nous devons avoir plusieurs producteurs. Donc, moi, par contre, quand il y a d'autres entreprises qui font ça, ça nous motive aussi à faire plus ou à faire encore une très bonne qualité. Donc, c'est plus dans cet aspect-là que moi, je vois la concurrence.
Parlant de la concurrence, je vois l'aspect secteur agroalimentaire. Qu'est-ce que tu penses de ces secteurs? Tu as une coopérative, donc tu collabores avec d'autres, on va dire, agriculteurs ou des entrepreneurs également. Mais qu'est-ce que tu penses de ces secteurs? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que, bien sûr, on puisse atteindre cet objectif dont tu parles aujourd'hui, d'être la Chine d'Afrique?
Oui, ces secteurs d'agroalimentaire, c'est ça. C'est ce qui est un peu décourageant. Ce n'est pas mis en avant. Ce n'est pas favorisé ou valorisé aussi. Donc, nous avons du potentiel. Nous avons 80 millions de terres arables qui n'est pas exploitée. Vous voyez, sur l'agriculture, l'RDC, c'est une page vierge. Ce n'est pas exploité. Nous, nous faisons des productions sans engrais. Moins de 2 mois, nous avons les produits. Si on avait des banques agricoles, si on avait des programmes sérieux de financement, on a tous les moyens pour être la Chine d'Afrique. Donc, c'est certain, c'est ce qui est déplorable, mais nous espérons que dans les années qui arrivent, ça va s'améliorer. Pour l'instant, ce n'est pas mis en avant. Ce n'est pas valorisé.
Alors ça, c'est très bien. Dans 5 ans, Nourrissons le Congo va certainement appliquer ce que représente son nom. Nourrir tout le Congo et devenir une référence dans l'agroalimentaire en République démocratique du Congo. Et ça, c'est avec Joe Lumbala Palata, CEO, directeur général actuel de Nourrissons le Congo, qui a pour objectif de nourrir et de dynamiser les secteurs agroalimentaires en République démocratique du Congo. D'ailleurs, la mission est claire, nourrir durablement la population congolaise tout en dynamisant les secteurs agricoles. C'est un engagement très fort. Concrètement, comment ça se traduit déjà cette mission sur terrain aujourd'hui?
Oui, sur terrain aujourd'hui, je dirais, je donnerais 60%. Pourquoi? Parce que, voilà, on ne va pas dire que tout nourrit ici. Il y a des périodes où si le climat ne favorise pas l'activité, comme tout commerce, des fois il y a les bas saisons, il y a les hauts saisons. Voilà, mais je pense que nous sommes dans des bonnes alignées et la force de Nourrissons le Congo, moi je dirais, c'est que nous sommes bien entourés aussi. Par exemple, personnellement, je profite de faire un clin d'œil, je travaille avec un partenaire, mais c'est Mike Touza, belge aussi. Qui est aussi très attaché sur l'entreprise, qui partage aussi notre vision. Donc, je pense que avec cet allié, nous espérons vraiment atteindre ces objectifs. Mais actuellement, nous sommes sur une bonne lignée parce que nous avons quand même créé les emplois. Notre produit, c'est à la disposition de la population et nous avançons petit à petit.
Maïs, soja, riz, huile de palme, c'est vraiment une chaîne des valeurs qui est assez complète pour l'agroalimentaire. Mais on ne peut pas parler de ça sans évoquer des défis. Parce que je le disais, ce n'est pas facile de lancer une entreprise avec une chaîne de valeurs aussi complète. Mais quels sont les grands défis aujourd'hui auxquels vous faites face?
Oui, voilà. Le grand défi, par exemple, c'est les transports. Les transports, le prix des transports, nous sommes le Congo, n'a pas encore ses propres véhicules. Du coup, nous louons les transports et voilà, les transports dans notre pays, c'est pas déterminé. Chacun fixe ses prix. Aujourd'hui, vous pouvez amener telle quantité dans ces prix-là et demain, c'est le double. Or, nous, étant commerçants, étant les entreprises, ça ne nous facilite pas parce que déjà nous faisons un coût de la production. Dans le coût de la production, tout est fixé. Tout est fixé, le prix de transport, logistique, tout ça. Mais quand le prix change, et ça nous réduit nos marges de bénéfices. Par exemple, nous évoluons plus dans le sens des contrats. Les contrats, quand vous signez les contrats, tout est déjà déterminé. Le prix, par exemple, que vous allez vendre votre produit. Et si là-bas, votre les transports vous posent problème, c'est vous qui vous êtes en perte parce que les clients, ils attendent les produits avec les prix déjà négociés bien avant. Donc, c'est ça. Il y a trop de péages dans les routes, nous qui travaillons dans des villages. Trop de péages.
On va rappeler que vous avez 50 hectares et c'est dans le Kwilu.
C'est dans, oui. Notre siège d'exploitation, c'est à Kwilu. Amener le produit de Kwilu jusqu'ici, vous pouvez vous rencontrer plus de 40 péages. Donc, c'est ça qui nous pose problème. Et voilà, après, il y a aussi problème des routes. Malgré nous n'avons pas vraiment ces problèmes-là parce que la route est quand même bonne. Mais l'idée, c'est s'étendre. S'étendre vraiment dans tout le territoire. La vision de Nourrissons le Congo, ce n'est pas seulement rester à Kwilu. Nous avons commencé à Kwilu, mais demain, on va peut-être aller au Bas-Congo. On sait que là-bas, la culture du manioc est facile. Nous allons travailler là-bas. On va travailler sur ça. Aller, par exemple, à Goma faire les haricots. Donc, c'est vraiment ça. Mais deux fils, ce sont des routes. Ce sont des conditions aussi pour travailler. Vous voyez, nous avons... Si on avait, par exemple, une banque agricole, ça allait nous faciliter à industrialiser parce que j'ai bien spécifié, jusqu'à présent, nous travaillons toujours en artisanal.
Vous avez également parlé du renforcement des circuits courts et puis cette question d'accès des familles à des denrées locales de qualité. Alors, comment vous assurez que vos produits arrivent bien aux tables, sur les tables de Congolais sans que le prix ne s'envole, par exemple?
Oui, Nourrissons le Congo a pour mission de donner à la population des produits bio, mais à un prix bas. Donc, c'est ça nos valeurs. À l'introduction, j'ai essayé de faire comprendre que nous avons lancé l'entreprise. C'est un business, oui, pour prendre l'argent, mais bien avant, c'était d'abord pour aider la population. Raison pour laquelle nous mettons vraiment de prix qui va faciliter tout type de population à s'en procurer. Donc, voilà.
Et comment vous rassurez que ces produits arrivent aux tables de Congolais à des prix abordables?
Oui, par exemple, nous faisons toujours une politique, par exemple, de commercialisation. Nous avons des points de vente que nous faisons des sortes de communiquer ça un peu partout, nos points de vente. Et après, les gens qui viennent acheter directement chez nous, ils savent que le produit est vraiment à un prix réduit. Mais après, si vous achetez chez une personne que nous fournissons, là, nous ne pouvons pas assurer ça parce que lui, il achète chez nous dans notre pays qui est de faciliter tout type de besoin des populations. Mais peut-être il peut aller de son côté et mettre un autre prix. Mais les gens qui nous contactent directement, ils savent que nos prix sont toujours de prix accessibles.
La formation de jeunes et l'autonomisation des communautés rurales sont également au cœur de ta démarche. Tu l'évoques généralement. Alors, comment tu intègres ces aspects sociaux et humains dans ton modèle économique?
Voilà. L'automatisation de la jeunesse, c'est vraiment ce qui nous passionne aussi. On veut que notre jeunesse ne soit pas juste la jeunesse qui sera résumée à discuter de foot et de la musique, mais aussi à entreprendre et à être de millionnaire comme le président l'avait dit. Donc, nous organisons des formations, nous organisons même des concours qu'on finance des sommes, juste pour stimuler notre jeunesse à travailler dans l'entrepreneuriat. De plus dépendre et de plus attendre d'autres personnes.
Donc, y a-t-il des activités comme ça, de formation, par exemple, déjà organisées?
Oui, nous organisons ça avec un partenaire à moi aussi, collègue Jean-Paul Mangat, entrepreneur aussi qui produit des vins. Et nous organisons ça, il y a d'autres même qui est prévu pour ce mois d'août, un concours pitch aussi. À la fin, nous allons donner des prix aux entrepreneurs.
Alors que vous-même, vous installez de plus en plus, vous voulez déjà attirer avec vous d'autres entrepreneurs, d'autres jeunes qui ont également des ambitions. Mais on va revenir sur la CONEC, hein, la Coopérative Nationale des Entrepreneurs Congolais. On va un peu dresser un bilan. Est-ce qu'on en a parlé? Oui, ça accompagne, voire même l'objectif, c'est d'aider des entrepreneurs à gagner, à vendre leurs produits, à aller même se vendre à l'international. Aujourd'hui, on parle du Congo qui s'est nourri lui-même et qui exporte. C'est quoi les bilans de cette CONEC?
Et voilà, CONEC, pour l'instant, nous sommes d'abord, je dirais, dans nos phases du début, parce que beaucoup de gens ne comprenaient pas encore ça. Ils commencent maintenant à comprendre, mais quand même, il y a des opportunités, il y a déjà de l'avancement. Il y a déjà quelques gens qui ont déjà obtenu quelques financements via nous, malgré nous ne voulons pas exposer ça. Nous, le problème, ce n'est pas la visibilité, non. Ou faire pour voir... Pour que ça monte à la toile, non. C'est vraiment aider au sens concret.
D'où viennent ces financements? Vous avez des investisseurs? Vous avez...
Oui, nous avons quelques partenaires, mais 90% provient de nous-mêmes.
Alors, s'il faut plutôt parler de l'exportation, un Congo qui se nourrit lui-même et qui exporte, alors est-ce que l'exportation est un objectif réaliste pour l'entreprise nourrissant le Congo aujourd'hui, après 2 ans ou 3 ans d'existence?
Oui, déjà nous avons eu l'opportunité, moi personnellement j'ai eu l'opportunité à participer à plusieurs salons internationaux. Et je me souviens, chaque fois que je pars là-bas, j'expose sur l'entreprise, j'ai toujours de demandes d'exportation. Donc ce sont vraiment des choses que nous sommes en train d'y travailler. Après, l'extérieur des pays, s'ils vous demandent d'exporter, vous n'allez pas exporter 50 tonnes. Donc, par exemple, la semaine dernière, on était en Chine, nous avons eu aussi quelques demandes du genre, raison pour laquelle on veut mettre encore accent sur notre coopérative. Les entrepreneurs qui veulent l'intégrer, la porte est grandement ouverte. Venez, on va travailler, vous êtes sur le maïs, vous êtes sur le piment. Rejoignez-nous comme ça, on va travailler ensemble, on va savoir comment on peut rendre ça réaliste l'exportation.
Si on devait considérer 3 leviers que l'État congolais ou les secteurs privés devraient activer pour soutenir davantage des entreprises comme les vôtres, à permettre à l'agroalimentaire congolais de briller à l'international. Parce qu'aller à des salons, c'est bien. Les entrepreneurs partent à des salons, c'est pour exposer, mais après, cela n'a pas encore réellement activé l'exportation de produits congolais à l'étranger ou à l'international.
Oui. Raison pour laquelle nous avons besoin que notre gouvernement puisse mettre l'accent sur l'agriculture, sur l'entrepreneuriat de nos produits. Nous faisons des produits congolais. Nous faisons des produits. Quand nous partons là-bas, c'est bien, nous vendons le pays. Mais ce qui est important, après avoir pitché ou exposé, avoir un résultat. Le résultat, c'est exporter le produit. Donc, nous voulons que le gouvernement nous aide à ça, à nous faciliter déjà à avoir cette capacité-là de l'exportation en mettant des dispositions qui vont nous permettre à réunir toutes les conditions afin d'exporter les produits.
Nous arrivons petit à petit à la fin déjà de notre émission ce soir avec Joey. Hein, Joey, alors est-ce qu'il y a un conseil à partager à un jeune entrepreneur qui voudrait se lancer dans l'agro-industrie, Joey Lungala Palata?
Conseil, moi je dirais avoir la détermination et surtout ne pas avoir peur d'affronter des obstacles ou les adversaires, je dirais. Moi j'ai l'ami que je viens de citer tout à l'heure, il produit le vin. S'il se mettait dans la peau d'autres personnes, il dit que non, le vin, voilà, j'ai fait des vins congolais, on sait des grandes marques de vin. Est-ce que ça sera vendu? Est-ce que s'il se mettait sur ces peaux-là, il n'allait pas lancer son entreprise? Mais aujourd'hui, son entreprise marche très bien. Donc, ne pas avoir peur et avoir une détermination. C'est ça le secret de la réussite sur l'entrepreneuriat.
Un dernier mot, Joey, comment faire pour te contacter personnellement ou contacter la boîte, éventuellement des collaborations, des partenariats ou même acheter des produits? Ou est-ce que vous avez un siège ici à Kinshasa? Comment ça se passe? Parlez-nous de ce qui concerne le contact.
Ok, nous le contact, nous avons une adresse mail qui est vraiment, on répond aussi rapidement. C'est nourrissonslecongo@gmail.com. nourrissonslecongo@gmail.com. Et notre siège, c'est à GB. Une fois que vous nous contactez sur le mail, on va donner toutes les informations pour comment nous joindre facilement.
Merci pour cette belle expérience. Tu nous as plongé dans l'expérience des nourrissons le Congo. L'objectif, c'est de nourrir le Congo, de devenir la référence dans l'agroalimentaire. L'entreprise est jeune, certes, mais mature de plus en plus et qui réalise déjà des très bonnes choses. C'était un plaisir. On se retrouve prochainement. Et à tous nos auditeurs qui nous ont suivis aujourd'hui, c'était un plaisir de me faire entendre par vous. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité et une nouvelle discussion sur une nouvelle thématique. Restez à l'écoute de la 94.7.
De fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis
de 19h05
la YouJob. Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils.